Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission, nouvelle édition de 100% rugby avec notre Dream Team du mardi, à savoir notre consultant numéro 1, Yann Blanchard, et notre arbitre maison, Benoît Caballero. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Quel plaisir de vous retrouver pour ce 100% rugby. Vous en avez l'habitude désormais, 100% rugby, c'est du lundi au jeudi en direct sur France Bleu Pays Basque de 18h à 19h, mais c'est aussi en podcast dès que vous le souhaitez sur notre site internet ou sur l'application ici. N'hésitez pas d'ailleurs à partager l'émission et à laisser vos avis sur les réseaux sociaux. On essaye de tous et toutes vous lire. Au programme ce soir, retour sur la 26e journée de Pro D2 et sur les enseignements que l'on peut en tirer. Retour également bien sûr sur la défaite du Biarritz Olympique sur le terrain du Stade Montois. Les adversaires du BO, justement, on va en parler ce soir à 4 journées de la fin du championnat. Et dans le cadre de cette opération maintien du BO, on va observer le calendrier de chaque adversaire direct du Biarritz Olympique, de la 10e à la 16e place, et se demander quels seront le ou les clubs dont l'agenda semble le plus favorable aux hommes de Simon Mannix. Il y aura les infos du jour au programme ce soir avec un transfert qui secoue le monde du rugby, un départ de Biarritz désormais officiel et un aviron bayonnais bon élève en top 14. Le qui peut battre évidemment, Benoît Caballero fera face à Yann Blanchard ce soir et on mettra surtout en jeu pour vous des places pour la prochaine rencontre de Bayonne à domicile contre l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis en dernière partie d'émission, on tirera le bilan des clubs français en Coupe d'Europe. Pas très glorieux ou au contraire ça démontre bien le niveau de nos clubs face aux écuries d'autres pays? Voilà une question qu'on va se poser ce soir. Vous avez le programme complet, 18h et 10 minutes, 100% rugby, c'est parti.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque, David Talek.
Et donc Yann Blanchard et Benoît Caballero avec nous comme chaque mardi soir pour revenir déjà pour commencer sur cette défaite du Biarritz Olympique face au Stade Montois. C'était juste avant le week-end, vendredi soir, défaite 38 à 7 sur le terrain de nos voisins landais. Je vais mettre directement les pieds dans le plat, hein, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette rencontre du Biarritz Olympique? J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire, en fait, non, Yann?
Non, pas grand-chose, mais on l'avait dit avant le match, même si il y avait beaucoup de retours et qu'on annonçait une équipe qui tournait, mais elle avait quand même fière allure, cette équipe-là, mais ils se sont fait rouler dessus, Mont-de-Marsan, en plus avec l'enjeu de l'hommage à André Boniface, voilà, un match absolument à gagner pour se qualifier pour les phases finales. N'a fait qu'une bouchée de ce Biarritz Olympique-là, qui a, semble-t-il, fait une croix sur ce match avant même de l'avoir joué, et on l'a vu pendant 80 minutes. Et encore, je trouve que le score est plutôt flatteur par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. C'est-à-dire à peu près rien du côté du Biarritz Olympique. C'est compliqué d'analyser ce match. Il y a pas grand-chose en fait. Donc cette impasse-là, elle sera validée entre guillemets que s'il y a une victoire probante contre Grenoble ce vendredi. Mais sinon, analyser un match où il n'y a rien qui va, c'est quand même assez compliqué.
Ah, c'est clair. Quand tu affrontes coup sur coup deux clubs du top 6, le Stade Montois et Grenoble, est-ce que c'est bon de faire l'impasse sur l'un des deux matchs? Benoît.
Bon, en tout cas, le staff, ils avaient dit qu'ils feraient l'impasse et qu'ils feraient tourner. Donc, je sais pas si c'est le bon choix. Il va falloir qu'ils fassent un... Bon, sauver, c'est presque fait, mais il va falloir qu'ils s'assurent les derrière, surtout parce que Angoulême a été gagné à l'extérieur. Donc, rien n'est totalement fait, en tout cas mathématiquement. Donc, je pense que qu'ils aient fait l'impasse, c'est une chose, mais comme dit Yann, ils ont rien montré, quoi. Il y avait ni d'attaque, ni de défense. Et en défense, c'était plutôt du gruyère, donc...
On aurait pu penser que les joueurs présents sur le terrain, ceux qui n'avaient pas joué depuis longtemps, on peut penser à Christopher Hilsenbeck par exemple, auraient voulu se montrer pour un match face en plus à un voisin landais. Il y a ce petit côté un peu derby, c'est pas vraiment un derby, non, mais il y a ce petit côté guerre des voisins. Mais on aurait pu penser que certains joueurs auraient voulu se montrer pour avoir un petit peu plus de temps de jeu peut-être sur les derniers matchs.
Vouloir, n'importe quel joueur veut être bon quand il joue, ça c'est sûr certain. Après c'est pouvoir. Et malheureusement, Hilsenbeck, notamment, qui est un joueur que j'appréciais énormément du côté de Vannes, notamment, était déjà dans le dur à Carca quand il avait signé à Carca. Et là, il est dans le dur depuis qu'il est au Biarritz Olympique. Il n'a pas eu un bon match cette saison.
Après, devant, quand on n'avance pas, c'est compliqué.
Bon, oui, c'est sûr que sur ce match-là, c'est dur d'analyser la performance du 10 quand tu te fais rouler dessus devant. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire partie de ces meneurs qui pourraient aussi, peut-être, par quelques coups, te mettre dans l'avancée.
Il y en a eu quelques-uns, des meneurs qui ont essayé de mettre de l'avancée. Tu peux penser à Yann David, notamment, par exemple, qui était le capitaine d'un soir, justement, face au Stade Montois.
Le seul qui n'est pas passé en dessous de son match, au moins dans l'intensité de ce qu'il faisait quand il avait le ballon en main. Je l'ai vu avancer deux, trois fois. Ça a été le seul, d'ailleurs, qui a avancé sur ce match-là. bon, c'est toujours un leader. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était capitaine. C'est toujours un leader par l'exemple, Yann David. Et je pense que sur cette fin de saison, il va être important.
Compliqué aussi de mettre des jeunes devant, justement, face à ce pack du Stade Montois. On pense à Kevin Toun, on pense à Alfie Petch, notamment. C'est pas le meilleur moyen de les mettre en confiance non plus.
Mais je sais pas trop ce qu'a voulu faire le staff. En fait, moi, je pensais qu'ils allaient quand même miser sur Mont-de-Marsan pour préparer Grenoble, parce qu'il y a pas beaucoup, il reste plus beaucoup de matchs et il faut faire jouer tous les joueurs aptes. Donc apparemment ils ont tout misé sur le match la semaine prochaine, enfin le match de vendredi, et ils ont complètement délaissé Mont-de-Marsan.
Et cette 26e journée de Pro D2 pour le coup, qui a quand même vu quelques résultats qui sont pas vraiment en la faveur du Biarritz Olympique. Bon, pour récapituler, il y a la victoire de Brive sur Colomiers 35-23. Il y a le bonus offensif justement glané par Grenoble face à Aurillac 55-10. Il y a la victoire de Béziers sur Valence-Romans 56-24. Bonus offensif aussi pour les Biterrois. Vannes qui bat Dax 42-10. Bonus offensif également. Rouen qui bat Provence. C'est peut-être ça aussi la grosse surprise de cette 26e journée, 29-28. La victoire de Soyons-Angoulême sur le terrain d'Agen 23-12. Et enfin Montauban qui bat Nevers d'un petit point seulement, 17-16. Deux bonus défensifs pour Aix-en-Provence et pour Nevers. Quand on voit voilà, les adversaires directs du Biarritz Olympique qui remportent leur match, même peut-être d'une courte tête ou même peut-être de façon un peu compliquée, qu'est-ce que ça augure à votre avis pour la suite de cette saison? Est-ce que là, ils n'ont pas, eux, fait le plein de confiance, les adversaires directs du BO?
Ouais, mais ils ont fait tous le plein de confiance. Ils l'ont tous fait à domicile, même si, à part Angoulême, qui a été gagné du côté de d'Agen. Mais un Agen qui est très irrégulier et très malade. Ce qui est rageant, c'est cette victoire de Montauban un peu à l'arrache, parce que sans cette victoire-là, la défaite de Biarritz ne serait qu'anecdotique, ils seraient pratiquement sauvés. Là, ils le sont pas, ils sont qu'à 4 points. Et Rouen aussi, qu'on annonçait mort, qui est qu'à 6 points du coup de ce Biarritz Olympique. Attention au scénario catastrophe le week-end prochain, parce que Montauban, qui a déjà reçu là, gagné à l'arrache, mais re-reçoit une nouvelle fois, même si c'est Vannes, qui là aussi a besoin de... Ce qu'il y a de bien pour le BO notamment, c'est que les équipes de devant ont aussi des points à les glaner pour finir dans les deux premiers. C'est pas encore fait entre Béziers, Vannes et Aix.
Absolument.
Voilà, on sait pas, ils se tiennent en deux points, donc ça va être le cache-cale à la fin. Mais Montauban les reçoit, ils vont être galvanisés par cette victoire un peu à l'arraché de ce week-end face à Nevers.
Grenoble
qui en a mis 50. On oublie quand même, faut pas oublier que Grenoble qui est actuellement en cinquième, ils ont 5, et on leur a retiré 6 points quoi. Ça veut dire qu'en gros ils seraient quatrième du championnat et ils seraient encore dans la course pour jouer les deux premières places. Donc c'est quand même une force de caractère énorme de la part de Grenoble, et attention, parce que s'ils peuvent s'assurer une place dans les 6 en venant taper l'avant avant-dernier, l'antépénultième de ce championnat, ils vont pas s'en priver, et malheureusement pour Biarritz, c'est vrai que toutes les équipes qui auront besoin de points d'ici la fin de la saison vont cocher les matchs face au Biarritz Olympique, ça c'est sûr.
Forcément, regarde.
Face à Biarritz, face à Montauban, c'est pas contre Biarritz que je dis ça, mais face aux derniers deux de ce championnat.
Non, c'est sûr, Grenoble, ils vont vouloir faire un coup. Il y a Babé Couillou qui va revenir à Biarritz, donc je pense qu'il aura une bonne revanche à prendre. Donc, méfiance pour le Biarritz Olympique. Ça va être tendu.
Ouais, si on regarde un peu cette 27e journée, il y a le déplacement du Stade Montois à Aix-en-Provence. C'est ce qui ouvrira cette 27e journée jeudi prochain. Et après vendredi, Soyons-Angoulême-Brive, Aurillac-Béziers, Dax-Rouen, Montauban-Vannes, Nevers-Colomiers, Valence-Romans-Agen et enfin ce Biarritz Olympique-Grenoble. Quand on regarde, c'est vrai, les adversaires directs du BO, soit ça s'affronte de façon très proche, soit ça va essayer de taper des gros. J'ai l'impression que c'est pas de bon augure non plus pour la 27e journée de Pro D2, non?
C'est pas de bon augure et je sais pas comment ils vont gérer, mais attention parce qu'ils jouent en dernier, ils jouent à 21h. J'espère juste que tout le monde éteindra les téléphones, parce qu'en cas de victoire de Montauban, et si tu le sais, dans le vestiaire, c'est aussi pas la même pour jouer ce match face à Grenoble. Tu peux jouer avec, excusez-moi de l'expression, avec la trouille au cul pendant 80 minutes, si jamais tu sais que dans un autre temps, mais pour le moment, t'es relégable.
Parce Alors, que... tu dis ça, mais est-ce que ça peut pas aussi les motiver, justement, ouais, à y aller, le couteau
dans la face à Grenoble? Là, les motiver quand t'es dernier, du championnat, c'est que tu n'as pas besoin de ça, tu es fragile de la tête depuis septembre. Donc, non. Il faut surtout pas qu'ils sachent ce qui se passe sur les autres terrains, parce que tu peux avoir la trouille du coup, et tu peux avoir la main qui tremble au moment de marquer les points.
27e journée, il en reste 4 avant la fin de ce championnat de Pro D2, avant la fin de la phase régulière en tout cas. On va regarder dans quelques instants, dans la deuxième partie de ce 100% rugby, eh bien le calendrier justement de ces 4 dernières journées pour chaque club de la 10e à la 16e place, à savoir les clubs qui sont encore à portée du Biarritz Olympique, d'Agen à Rouen, passant par Montauban, Soyons-Angoulême, Valence-Romans, Aurillac. Ça sera dans la prochaine partie de 100% rugby, et c'est juste après ça.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
100% rugby, deuxième partie, avec ce soir nos courses, notre équipe du mardi, Yann Blanchard et Benoît Caballero, à 4 journées maintenant de la fin du championnat de Pro D2 dans cette opération maintien au Biarritz Olympique. Je vous propose de regarder, messieurs, le calendrier, l'agenda de chaque adversaire direct du Biarritz Olympique, de la 10e du coup à la 16e place, en commençant par Agen. Agen qui est à 56 points actuellement, 10e du championnat, qui va se déplacer à Valence-Romans pour la 27e journée de Pro D2, qui recevra donc Biarritz le 25 avril pour la 28e. L'avant-dernière journée, ce sera un déplacement du côté de Dax le 10 mai avant, pour cette 30e journée de Pro D2, de recevoir Vannes le 17 mai. On en pense quoi de ce calendrier, de cet agenda de l'équipe d'Agen? Est-ce que vous les voyez aller accrocher un petit peu plus haut, rester dans ce ventre mou ou descendre?
Non mais t'es monté très très haut là. Ils ont
56 points.
Oui, ils ont 11 points d'avance sur Montauban. Il reste donc 4 journées. C'est impossible que Agen aille plus bas. Donc, ils ont une fin de saison. Je pense que le match contre le BO est coché, notamment par la direction à Genèse.
Il y a ce déplacement à Valence-Romans où tu peux aller chercher quelques points aussi.
Oui, mais pourquoi faire? Ça sert à rien.
Et bah, gratter quelques points à Valence-Romans, justement. Oui, mais ce qui pourrait faire les affaires du Biarritz Olympique.
Ah oui. Je suis pas sûr qu'ils vont se battre pour le Biarritz Olympique. Je pense qu'ils ont coché ce match contre Agen, mais après le reste c'est Agen avec cette défaite du week-end dernier face à Angoulême a pratiquement enterré tous les espoirs de finir dans le top 6 et donc va finir tranquillement cette saison en roue libre, malheureusement, parce que ça fait maintenant 3 saisons, 4 saisons avec la descente de top 14 à Pro D2 où c'est compliqué pour Agen et ils arrivent pas à trouver la régularité, ce qu'ils ont peut-être été chercher avec le manager des U20 Calvé pour la saison prochaine.
Benoît, un mot sur Agen ou on passe à Aurillac?
On va passer à Aurillac, oui.
On va passer à Aurillac, 11e de ce championnat avec 52 points. Aurillac qui, pour la prochaine journée, recevra Béziers. Ensuite, deux déplacements. Déplacement à Brive, déplacement du côté de Valence-Romans. Et ce dernier match pour Aurillac avec la réception de Montauban. Quasiment que des adversaires directs à ce maintien. Valence-Romans-Montauban. Bon, on compte peut-être pas Béziers pour la prochaine journée à Aurillac. 52 points à 3 points seulement du Biarritz Olympique.
Ouais, et le calendrier, alors je t'aurais dit, eux aussi je les mets en dehors de la lutte pour le maintien, parce qu'il y a quand même eux aussi 7 points avec Montauban, ce qui est énorme, mais alors le calendrier, il est vraiment pas rigolo pour eux, t'as cité Béziers, ils vont à Brive.
Ils vont à Valence-Romans.
Ils vont à Valence-Romans et ils reçoivent Montauban, donc en gros les deux dernières journées, s'ils ont pas gagné un match d'ici là, ça va être pour se sauver. Et donc une dernière à domicile, c'est un point positif pour eux, mais le calendrier est pas tout à fait favorable, alors qu'il y a quelques semaines encore, on parlait d'Aurillac dans le top 6, enfin ou pas loin du top 6, et on voit que là ça dégringole, donc ils restent sur une victoire en 5 matchs, c'est pas terrible du côté d'Aurillac en ce moment.
Pour toi, Benoît?
Non, il a tout dit, Yann, et c'est surtout le dernier match contre Montauban qui va être décisif, et pour Aurillac, et pour Montauban, je pense.
Et pour le 12e, Valence-Romans, même nombre de points, hein, 52 points à égalité avec Aurillac, donc à 3 petits points seulement du Biarritz Olympique. Et on en parlait il y a quelques instants, la réception d'Agen pour la prochaine journée. Mais après, il y a ce déplacement à Aix-en-Provence. Il y a derrière, 29e journée, donc cette réception d'Aurillac. Et puis surtout, la dernière journée, un déplacement du côté de Colomiers. Valence-Romans, peut-être là, quelque chose pour le Biarritz Olympique en tout cas. Chose de bien à observer.
Non, pour le moment, moi, c'est ceux qui ont peut-être le calendrier le plus favorable, notamment au domicile, avec la réception de, si je ne m'abuse,
Agen.
De Agen, qui n'aura, je l'ai dit, plus grand chose à jouer.
Aurillac,
et
ensuite.
La réception d'Aurillac, qui, on leur souhaite en tout cas, parce que vu la saison, ce serait catastrophique qu'ils jouent le maintien jusqu'au bout.
Mais t'as surtout les deux déplacements, quoi, à Provence et à Colomiers.
Oui, Colomiers, ils peuvent toujours accrocher la 6e place.
Ouais, bien sûr, mais avec, ils ont 5 points d'avance, pour le moment, 7 points d'avance sur Montauban, avec 2 victoires à domicile, c'est terminé. Le maintien, il est acquis, donc il n'y a pas photo là-dessus.
Pour toi, Benoît, sur Valence-Romans?
Non, mais pour moi, Montauban, vu la saison qu'ils ont fait, ils n'ont pas tellement de concurrence directe et ça va être très compliqué pour eux. Il faut absolument que Biarritz, comme on l'a dit, valide Grenoble. Et après, il n'y aura pas de difficulté pour les autres, mais ça va se jouer dans un mouchoir de poche.
Mais pour moi, ça se joue ce week-end. Ça se joue ce week-end parce que Biarritz peut et doit l'emporter face à Grenoble et d'un autre côté Vannes peut l'emporter du côté de Montauban et dans ce cas-là on parle plus de maintien, c'est terminé, ça. Ce sera Montauban et Rouen qui vont se disputer la 20e place puisqu'il n'y a plus que 2 points entre les deux quand même. Donc voilà, mais ça sera terminé.
Il y a le barrage en plus avec la 20e.
Oui, c'est ça. Mais ça on parlera plus de Biarritz. Et donc pour moi, ça se joue réellement ce week-end. Et Biarritz, c'est pareil, s'ils assurent à domicile, Montauban, c'est bien, mais ils vont pas gagner tous leurs matchs non plus d'ici la fin de la saison.
On va regarder le calendrier de Montauban après, ça va être compliqué. Hein. Oui. Mais avant, il y a Soyons-Angoulême à un petit point seulement du Biarritz Olympique qui occupe donc cette 13e place. Soyons-Angoulême qui recevra Brive lors de la prochaine journée, qui se déplacera à Nevers pour la 28e, qui se déplacera ensuite à Rouen pour la 29e journée avant de recevoir Béziers pour la dernière journée de championnat, la 30e. Pas simple non plus, j'ai l'impression, le calendrier de Soyons-Angoulême.
On parle de calendrier compliqué, il est très très compliqué.
Ça dépend, Béziers, la dernière journée.
Il y a une casserole studio.
Ils sont sûrs d'être. Comme c'est parti, le problème, c'est que Béziers, Vannes et Provence, est-ce qu'à la dernière journée, est-ce qu'on aura les deux qui seront sortis du lot? On n'en sait rien. Parce qu'en effet, si Béziers reste troisième, le quatrième pourra pas les rattraper, donc ils resteront troisième. Mais si jamais ils ont une première ou une deuxième place à jouer, ils vont la jouer jusqu'au bout.
Ils vont la jouer à fond.
Et comme ça, t'as un week-end de libre derrière. Donc, ouais, le calendrier d'Angoulême. On se rend compte quand même que, heureusement qu'ils ont gagné quand même du.
C'était une
surprise, mais du côté d'Agen, parce que si tu leur enlèves 4 points, je pense qu'ils étaient vraiment dans la Ruiz et Alexandre Ruiz aurait pu dire encore que le championnat et le rugby français en veut à Alexandre Ruiz.
Comme il a dit encore ce week-end. Catastrophique.
Quoi ?
Non, c'est les arbitres. Hein.
Oui.
Quelque
non,
chose
à dire là, c'est même pas que les arbitres. C'est
la Ligue.
On en veut à Alexandre Ruiz.
Tout partout
Alexandre Ruiz dérange, tu sais, c'est une grande phrase, ça.
Tout le monde prend un tacle aujourd'hui. Pour le calendrier de Biarritz, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais bon, la réception de Grenoble, le déplacement à Agen pour la 28e journée, la réception d'Aix en Provence pour la 29e et ce déplacement à Brive pour clôturer la saison. On parlait de calendrier pas simple pour Soyons-Angoulême, bon, celui du Biarritz Olympique, non plus, hein.
Non, ouais, le match le plus abordable, c'est presque celui de ce week-end, et pourtant il est très complexe contre Grenoble. Donc, à voir sur le reste. La donnée, ce serait une nouvelle fois Aix-en-Provence. Ils peuvent venir gagner des points pour finir dans les deux premiers, mais ils s'en priveront pas. Donc, attention, et Brive, pour le moment.
Ils viendront pour, hein, comme on disait, avec Béziers qui va.
Ouais. Et à cause du dernier match, Brive qui pour le moment joue la 6ème place, mais on voit week-end après week-end que Brive, bah, une fois c'est tout noir, une fois c'est blanc, ça se tombe bien, ils jouent en noir et blanc, mais un week-end sur deux, on ne sait pas à quoi s'attendre avec cette équipe.
15e, Montauban, 45 points. Montauban qui a pas le calendrier le plus simple de l'univers non plus. Hein. Réception de Vannes pour la prochaine journée. Ce déplacement à Colomiers pour la 28e. Réception du Stade Montois pour la 29e. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, ce déplacement à Aurillac pour clôturer cette 30e journée de Pro D2. Vannes, Colomiers, Stade Montois, Aurillac. Est-ce qu'on peut dire bye bye Montauban d'ores et déjà?
Non, mais moi c'est vrai, il est vrai que je vois gagner un voire deux matchs grand maximum sur cette fin de saison. Donc
c'est-à-dire les deux réceptions à Sapiac,
ouais, c'est ça. C'est ouais. Ça.
Alors réception de Vannes, tu vois Vannes aller perdre à Montauban.
Ouais, en fait c'est redevenu chiant. On l'a vu à Nevers. Nevers avait le match en main, je crois que même qu'ils mènent 16-3 à un moment et ils perdent 17-16. Il faut que Sapiac redevienne la cuve que ça a pu être dans le passé et dans ce cas-là peut-être qu'ils feront tomber Vannes. C'est toujours pareil quand t'as des équipes qui jouent le maintien, là, si t'as envie de casser la bouche au mec qui joue la première place et qui est en train de se dire, attends, je vais pas me péter ici alors que dans trois semaines ou un mois j'ai des phases finales. Pendant que lui jouera son barrage de merde contre une équipe nationale, t'as ce petit truc un peu hautain et précieux qui va dire bon, oui, vas-y, amuse-toi, casse-moi la bouche si tu veux, mais moi je vais pas réagir. Donc ça peut faire la diff sur des matchs comme ça. Et au contraire d'un BO qui était pas programmé pour jouer ça, Montauban a toujours eu dans son ADN, excusez-moi, c'est positivement que je vais dire ça, mais d'être con à domicile en fait. Ça a toujours été con de jouer à Sapiac, ça a toujours été chiant, ça a toujours été une équipe de pénibles, des spectateurs de pénibles qui adorent quand ça s'accroche. Donc sur un maintien à jouer, notamment en recevant le premier championnat, si ça t'embête ce que je dis Benoît, t'as qu'à manger, n'hésite pas. Le premier championnat, eh bien, ils vont se faire une joie peut-être de le faire tomber. Moi je les vois faire tomber Vannes ce week-end d'ailleurs.
Toi aussi Benoît?
Attends, laisse-le manger.
Mais qu'est-ce que tu dis? Je mange, j'ai rien. Mais il est fou ce mec.
Je comprends pas. Moi non plus je comprends pas.
Bon, c'est pas arrivé.
Ce Montauban Vannes, toi, comment tu le vois? Tu vois Vannes aller perdre à Sapiac aussi?
Non, moi
c'est plutôt Montauban gagner à la maison, c'est plutôt comme ça.
Moi c'est plutôt comme disait Yann, Montauban, ils ont toujours eu des tripes et c'est là qu'ils vont montrer leur caractère. Mais comme il dit, ça va se jouer sur cette journée là entre Biarritz et Montauban. Biarritz, ça va être le feu s'ils perdent à domicile. Montauban, ils vont tout miser sur les dernières rencontres à domicile. Donc on verra.
La logique voudrait, je le répète, que le maintien soit terminé ce week-end pour Biarritz, puisque Biarritz, la logique voudrait qu'il gagne contre Grenoble et que Vannes aille s'imposer à Montauban. Je pense que ça serait des scores logiques, ça serait pas une surprise pour personne. Et le maintien s'arrêterait donc ce week-end et ça serait fait pour le Biarritz Olympique et on pourrait respirer en attendant maintenant la passation de pouvoir.
Ah bah si on peut éviter d'avoir les trois dernières journées en apnée, c'est sûr. Alors il y a aussi Rouen, hein, 43 points, lanterne rouge du championnat. Rouen qui se déplace à Dax ce week-end, qui se déplace ensuite du côté de Vannes pour la 28e journée, qui reçoit Soyons-Angoulême pour la 29e et qui va de nouveau se déplacer, mais cette fois au Stade Montois pour la dernière journée de championnat. On pensait déjà dire au revoir à Rouen il y a quelques semaines, voire même quelques mois déjà. Mais quand on voit ce calendrier-là, Dax, Vannes, Stade Montois, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire bon, Rouen, rendez-vous en nation la saison prochaine?
Ben, je sais pas, parce que aller à Dax aussi, où Dax n'a vraiment plus rien joué, l'objectif est atteint. Non, mais ils vont jamais aller dans les 6 premiers.
Et ils sont 6e, hein, Dax. Hein.
De quoi?
C'est ce week-end.
Oui, c'est ce week-end.
Mais donc Dax est 6e pour le moment.
Ils sont 6e.
Ouais,
à égalité
pas.
De points avec Nevers, certes, mais ils sont 6e à un petit point de Grenoble seulement.
Non, mais là, c'est ce week-end, Dax est 4e. Hein. Ils vont prendre 5 points.
Hein. Peut-être que Rouen va sortir les tripes comme Montauban pourrait le faire aussi, et on verra ce qu'il va y avoir.
Tu vois, toi, Rouen aller gagner à Dax?
Non, je veux pas rigoler, parce que en effet, ça se peut. Et justement, c'est peut-être un Dax qui surperforme cette année,
c'est pour
qui
ça que
peut tomber
ça.
Contre une agressivité rouennaise qui vient pour se sauver. Après, oui, moi, je fais mon mea culpa. Je les ai enterrés pratiquement toute l'année. On voit qu'ils sont qu'à 2 points du 15e de Montauban. Là, c'est pareil. Ça veut dire 2 points du 15e. Ça veut dire qu'une victoire, voire 2 victoires, eh ben, peut-être pourrait leur suffire pour accrocher un barrage. Il y a cette réception contre Angoulême, notamment.
Ouais, 29e journée, ouais.
Et voilà. Et une dernière journée où là, par contre, en allant au Stade Montois, le Stade Montois, par contre, a des chances de n'avoir plus rien à jouer sur ce match, sur cette dernière journée.
Et là, comme tu disais tout à l'heure, on s'économise.
Et t'as un barrage juste une semaine après. C'est-à-dire que t'as pas de week-end de repos pour Mont-de-Marsan qui finira quatrième sur son terrain en plus.
Éviter des blessés ou quoi, ou des cartons.
Week-end
ou quoi.
Un peu, je pense que t'en profites si jamais t'as le barrage derrière domicile, t'en profites aussi pour faire les adieux à des mecs qui jouent plus forcément, mais qui vont te quitter à la fin de la saison. Et tu peux avoir une équipe en face de Rouen qui, elle, a besoin de points et qui vient faire chier Mont-de-Marsan, même si cette pelouse hybride, Mont-de-Marsan, et cette pelouse synthétique, c'est Mont-de-Marsan, est énorme depuis qu'elle a été refaite.
Donc, en gros, soit il y aura plus de suspense ce week-end, soit il y en aura jusqu'au bout de ce championnat de Pro D2, en gros.
Il restera, quoi qu'il se passe ce week-end, il restera du suspense au moins pour la 15e et 16e place, parce que du coup, c'est pas du tout
ça,
fait
pour les deux, quoi.
Ça serait pas du tout fait du côté de Montauban. Et donc, attention à ces Rouennais qui pourraient accrocher un barrage, et je continue de dire que sur un barrage, il y aura 20 points d'écart avec le club national.
Et voilà qui est dit. Et voilà qui clôture cette deuxième partie de ce 100% rugby. 18h33. Dans quelques instants, on va passer aux infos du jour.
Père.
100% rugby, les infos du jour.
Et on enchaîne dans ce 100% rugby avec Yann Blanchard et Benoît Caballero. Les infos du jour, vous en connaissez le principe. Oui, mais hors antenne, donc ça va. Les infos du jour.
Toi, tu les veux, hein, en antenne.
Qu'on est allé glaner dans la presse, vous réagissez ou pas à ce qui va être dit avec un gros transfert pour cette première info. C'est le Leinster qui s'offre la star All Black, Jordi Barrett, l'un des meilleurs trois quarts polyvalents au monde, qui va arriver au sein de la province irlandaise en novembre prochain pour une pige de 6 mois. Quand même une grosse pioche, hein, pour le Leinster. Leinster, c'est quand même la grosse ossature déjà de l'équipe d'Irlande, qui recrute un élément en pleine possession de ses moyens, une référence mondiale. Est-ce que là, le Leinster est pas en train de se créer la meilleure équipe de club au monde avec ce genre de signature là?
Non, pas pour 6 mois. Moi, je comprends pas du tout le Leinster. Ça aurait été une équipe française, style Montpellier, style Toulon, style Racing, qui a l'habitude de parfois faire n'importe quoi sur le marché des transferts. J'aurais pu peut-être le comprendre, mais là, faire signer ce joueur pour 6 mois, il arrive.
Il viendrait jouer premier centre normalement.
Il arrive en plus en décembre 2024, c'est
novembre,
ça
novembre 2024.
Donc le mec, en fait, il va faire 10 matchs, puisque de toute façon, on a une star par la Coupe d'Europe.
Phase finale Coupe d'Europe. Et
voilà.
Est-ce qu'il vient pas que pour ça, justement?
Oui, mais que pour ça. Enfin,
il aurait déjà été champion sans lui.
Mais
donc,
oui, et ils vont l'être peut-être encore cette année sans lui encore. Et ça veut dire que tu vas pas faire jouer un mec, peut-être un Irlandais, parce qu'il sera là et parce qu'il va jouer à sa place. Je vois, alors c'est un gros coup de com, mais le reste, sportivement, je vois aucun intérêt.
Ah ouais, toi non plus, voilà.
Bah, financier pour lui, en tout cas. C'est sûr, mais.
C'est sur le Japon, sur l'Europe. De toute façon, ils viennent chercher du pognon pendant 6 mois à chaque fois, les Néo-Z, et puis après, ils repartent pour aller jouer les Coupes du Monde. Donc.
Et pour aller jouer avec les All Blacks. Bon. Je pensais que ça vous a emballé, ça. Bah, pas du
non,
tout.
Non, pas du
coup.
Tout.
Deuxième info du jour, elle concerne cette fois le top 14. C'est toujours du Mercato. Montpellier qui a officialisé aujourd'hui sur son site internet le retour de Mohamed Awas la saison prochaine. Alors, je vous livre le titre qui était donné sur l'article sur le site officiel du Montpellier Hero Rugby. Le MHR accorde une seconde chance à Mohamed Awas, mettant en avant l'importance de la réinsertion sociale. Ce qu'il attend, c'est un contrat d'une saison. saison, conditionné par un comportement exemplaire. Et le MHR va en plus fournir un soutien supplémentaire à Mohamed Aouas en dehors des terrains, en collaborant avec le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, à savoir le CPCA Sud-Occitanie. Retour donc de Mohamed Aouas au MHR.
Ça, c'était le titre de l'article d'il y a 4 ans, parce que c'est pas la seconde chance, c'est la 29e chance donnée par le MHR à Mohamed Aouas.
C'est ce qui était dans l'article officiel sur le site officiel du MHR.
Bon, c'est sa signature, voilà, c'est une info, le reste n'est que littérature. Ça ne va pas changer grand-chose qu'il aille faire 3 sensibilisations. On n'en est pas là du tout. Quand l'affaire était, on était autour de cette table, quand l'affaire est arrivée, tout le monde disait fin de carrière, et moi je vous disais attendez, mais il y a bien quelqu'un qui va le relancer. Bon, mais ça a été Biarritz. Et puis 6 mois après, c'est Montpellier. Donc, voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est une société privée, ils font ce qu'ils veulent, et en avant, quoi. Benoît. Du pain et des jeux.
Ouais, étonnant, ils le virent, puis ils le reprennent.
Bon, nous autour de la table, excusez-moi, mais si on juge sportivement, c'est même étonnant qu'ils le reprennent oui. Sportivement.
Parce qu'il c'est pas cette année à Biarritz qu'il a montré grand-chose.
Voilà.
Il a fait un gros match.
Donc il doit avoir une affinité spéciale, c'est sûr, mais attention à ce qu'il redéconne pas, parce qu'il a redéconné à chaque fois qu'on lui a laissé une chance.
La seconde, voire la 62e, enfin je sais plus. Bref, ça c'était pour la deuxième info du jour. La dernière, elle concerne Bayonne. Bayonne qui est apparemment l'équipe qui utilise le moins de joueurs non-GIF, joueurs issus de la formation française. 3,8 en moyenne depuis le début de la saison. Bayonne, très bon élève au classement des GIF qui est sorti aujourd'hui. L'Aviron est troisième à ce classement derrière le Racing 92 et le Stade Toulousain avec une moyenne de 19,4 joueurs issus de la formation française par match. Pas forcément étonnant, non?
Non, pas étonnant, mais bon, j'aurais toujours une frustration quand je vois ces classements-là, parce que y a pas de mérite pour les joueurs qui ont été formés au club. C'est-à-dire, c'est bien de prendre des gifs, mais quand vous êtes le Racing et qu'à 19-20 ans ou l'UBB, vous ratissez tous les jeunes de toute la France pour prendre les meilleurs, et après vous osez mettre sur vos compos d'équipe qui sont formés chez vous. Je vous rappelle quand même que Toulon, mais quand même que Olivon est passé par le centre de formation de Toulon. Oui, il est passé devant en voiture, quoi, pour les garer, mais c'est tout, quoi. Il est arrivé, il était déjà international, donc bon. Donc moi, voilà, j'attends une réforme sur ces gifs-là, pour avoir des points en plus quand ton mec est formé à Bayonne, formé dans son club, pardon.
Il y a déjà, mais c'est financier. Pour les clubs.
Oui, mais tu vois.
Parce que tu ramènes
plus.
Ça a quand même plus de gueule dans un classement de dire il y a 19 mecs, mais on vous en compte 24 parce qu'il y en a deux qui sont depuis tout petit chez vous, que d'avoir des mecs qui payent des jeunes de partout. Là, on voit l'UBB, le pognon qu'il lâche sur des gamins de 19-20 ans en indemnité de formation, et qui après, du coup, eux aussi, dans les GIFs, ils vont être au top du top.
Mais est-ce que ce classement est important? Il est juste littéraire.
Est-ce qu'il y a des primes financières?
Voilà, est-ce qu'il y a des primes?
Il y a un minimum aussi à respecter.
Il y a des primes.
Et surtout, je vois pas, en fait, dans ce classement-là.
En gros, lorsqu'une équipe affiche une moyenne de 17 GIF ou plus, elle bénéficie d'une aide financière qui s'appelle le fonds GIF, et en gros, c'est 220 000 euros. Ça peut monter à 320 000.
Pour être tout à fait complet, Esteban Capilla, par exemple, qui est avec France 7, à chaque fois qu'il a appelé et qu'il y a des matchs de top 14, il compte aussi pour un GIF en plus.
On prend en compte les internationaux.
C'est pareil avec les internationaux et un temps avec les internationaux U20. C'est-à-dire que, par exemple, Mathis Perchaud, quand il était déjà titulé à Bayonne, quand il partait en U20, normal que ça compte pour un GIF de plus. Donc, on pourrait même imaginer ce système-là avec un GIF de plus pour des mecs formés au club.
Est-ce qu'il faudrait pas tout simplement réformer ce système des GIF et parler de joueurs formés au club?
Oui, mais ça n'existe pas. Il y a des clubs où il n'y a personne qui est formé au club chez eux. Nous, Bayonne, on a ce chance-là, mais ça devrait juste amener des points en plus.
Pour toi, Benoît?
Non, déjà, ils ont mis les GIF il n'y a pas longtemps. Ça a éclairci pas mal le championnat.
Ça y est, les clubs l'ont contourné. Tu as des étrangers qui arrivent de partout.
Si tu peux me laisser finir mes phrases, Yann Blanchard. Ils ont mis ça il y a pas longtemps, donc ça a fait son effet parce que il y a beaucoup plus de joueurs qui sortent au moins des espoirs de l'équipe. Mais après, c'est vrai que comme dit Yann, ce classement, il est un peu, c'est l'appellation qui est un peu bizarre parce que former au club, un mec qui arrive en espoir, il est pas formé au club. Il y a la chance qu'à Bayonne ou d'autres clubs, peut-être Toulouse, où il commence en minime et cadet, junior. Et ça c'est encore plus joli, quoi.
T'as même un mec comme Baptiste Aiguille n'a connu qu'un seul club, c'est-à-dire l'Aviron Bayonnais. Arthur Duhaut, bon, il est parti maintenant, mais il avait connu qu'un seul club. C'est rare, ça, quand même. Tu vois, il faut que ça soit valorisé, en fait. Parce que là, on parle des GIF, tu dis ça a été mis il y a pas longtemps, mais ça y est, les clubs, ils se sont adaptés. Il y a des étrangers qui arrivent à 15 ou 16 ans, comme ça, ils sont GIF à 20. Ça y est, les clubs, ils ont contourné. Donc, il faut récompenser.
Joe Jonas.
Oui, mais quand tu vas chercher une pépite, c'est bien. Quand tu vas faire du déchet avec des gamins, là, c'est grave. Joe Jonas, c'est pour moi un mauvais exemple que tu donnes.
Non, mais pour dire qu'il est arrivé ici.
Ouais, mais c'est bien. C'est une vraie réussite, en fait, ce gamin-là.
Ou l'exception qui confirme là avec
voilà.
Joe Jonas.
Mais ce que je veux dire, c'est que si tu récompenses ceux qui sont formés chez toi dès le début, eh ben, tu iras peut-être pas chercher autant d'étrangers chez les jeunes, etc., que le mec qui joue au même poste, eh ben, soit aussi bon que l'étranger que tu vas aller chercher.
Vous pensiez qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Vous pensiez c'était un peu tendu ce soir.
Tu dis n'importe quoi comme d'habitude.
Je t'aime, moi.
Voilà. Pas moi.
La suite, c'est quoi? C'est le qui peut battre. Ça va être pire dans quelques instants, vous allez voir. Vous nous rejoignez au
05 59 59 17 17
pour remporter des places pour la prochaine rencontre de l'Aviron Bayonnais à domicile. Bayonne, Union, Bordeaux-Bègles. Ça sera à Jean Daugé samedi 27 avril prochain à partir de 17h. Et vous y serez grâce soit à Yann Blanchard, soit à Benoît Caballero. Ils vont s'affronter dans le qui peut battre pour vous. Vous venez nous rejoindre, vous aussi. Deux places pour Bayonne, Union, Bordeaux-Bègles. C'est maintenant 05 59 59 17 17. Avec ce soir la team du mardi, Yann Blanchard, Benoît Caballero, c'est l'heure du qui peut battre. Ils vont s'affronter pour vous faire gagner des places pour la prochaine rencontre de l'Aviron Bayonnais à domicile, à savoir contre l'Union Bordeaux-Bègles, samedi 27 avril prochain. Et vous êtes deux à nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Martine à Bardos. Bonjour Martine.
Bonjour.
Vous allez faire face ce soir, Martine, à Bichente, qui lui est à Mouguère. Bonsoir Bichente.
Bonsoir.
J'espère que vous êtes chauds et que vous êtes prêts tous les deux. Hein.
À bloc.
Parce que là, je peux vous dire, Yann et Benoît, ils sont à bloc, ils s'envoient des trucs dans le visage.
Yann, il est affalé sur la chaise.
Hein. Ils n'en peuvent plus. Martine, vous avez été la première à nous rejoindre au standard ce soir. C'est donc vous qui allez choisir dans quel team vous allez vous glisser. Est-ce que vous êtes plutôt team Yann ou team Benoît?
Yann.
Martine fera donc équipe avec Yann. Bichente, vous allez faire équipe avec Benoît. Ça va quand même?
Oui, ça va quand même m'obliger.
Voilà.
C'est sympa.
Initials Bibi pour Bichente et Benoît, Martine, Yann. Vous connaissez le principe du qui peut battre, bien sûr. Un quiz. Trois questions sur l'actualité et la culture rugby. Il suffit de deux réponses pour remporter la victoire. Et c'est deux places pour Bayonne, Union Bordeaux-Bègles. Je rappelle que c'est quand même un match à guichet fermé et que les dernières places sont à gagner là, sur France Bleu Pays Basque. On est d'accord. Tout le monde est prêt?
Ouais.
Oui.
Attends,
oui.
Il faut les règles.
Alors les règles, c'est déjà que vous me laissez finir les questions.
Voilà, parce que Yann il triche. Et interdit de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Non mais déjà c'est moi qui fais les règles.
Ouais, ouais, ouais. Donc il a pas dit.
Alors okay. Attention. Allez, on s'y met. Allez, première Bichente. Question. Vous me laissez finir, évidemment. On en a parlé il y a quelques instants. Il reste 6 journées de championnat avant le début des phases finales. L'occasion donc de faire un petit point sur le classement des GIF, les joueurs issus de la formation française.
Ouais, mais c'est pas des questions rugby.
Je vous demande, quelle est l'équipe de top 14 dernière au classement des GIF alignés?
Perpi, clairement.
Non.
Montpellier.
Oh, Bichente.
J'allais le dire.
Montpellier.
Martine, fallait y aller un peu plus vite.
Un peu tard, Bardos.
Un peu tard, Martine.
Bien joué, Bichente.
Bien.
Bichente a répondu juste avant, la bonne réponse est effectivement Montpellier.
Montpellier
ouais. Exactement.
Oui.
Martine,
on va se rattraper, Martine.
Deuxième question, faut y aller. Hein.
Ouais.
Vous me laissez finir, évidemment. C'est parti. Le monde du rugby a rendu hommage à André Boniface, la légende du Stade Montois, lors de la dernière journée de Pro D2.
Non.
Je vous demande.
Non, on va se ridiculiser.
Écoute-moi. Combien de sélections en équipe de France compte André Boniface?
50.
Attends, arrête. Chacun son tour. Vas-y Benoît.
50.
Vas-y.
Martine, je vais dire 51, je crois, parce que c'est 60 et quelques.
C'est 60, putain.
Je sais pas.
51.
51 ?
Ouais.
48.
C'est magnifique, Bichente, que je suis content.
48. Et c'est une victoire de la team Bibi, la team Bichente, Benoît, mais c'est incroyable.
Allez, va fumer mon petit gars.
Magnifique.
C'est incroyable. 48 sélections entre 1954 et 1966. 48 sélections où il a marqué 44 points, dont 11 essais. Désolé, Martine, pour le coup.
C'est trop dur.
Ah, c'était pas ça.
Non, c'est pas dur, il faut connaître le rugby, c'est tout.
Oh, dis donc, un peu de respect pour nos candidats.
Qui se prend, lui?
Je parle pour Yann, surtout.
Est-ce que vous voulez...
Il ne reste pas des places.
Alors, demain, Martine.
Yann, Anna, mais il garde pour ses copains.
Demain, dans l'équipe peut battre. Est-ce qu'on se fait quand même la dernière question pour l'amour du sport?
Oui, allez, on met... Bichente, on le met Fanny, le petit Blanchard, là.
Il y a possibilité de mettre Yann Blanchard Fanny ce soir, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment, d'ailleurs.
Ouais.
Attention, dernière question. Je vous demande. On va parler du prochain adversaire de l'Aviron Bayonnais, à savoir le Stade Français. Je vous demande, dans l'effectif actuel du Stade français, combien de joueurs sont passés par un club du Pays Basque?
6
4
Oh, j'ai entendu un 4 là-bas, ça venait d'où?
Bah, Bichente.
Non,
c'est la, c'est le souffleur de Martine.
Hugo Zabalza, Kylian Hamdaoui, ouais. Pérez Blanc et Mathieu Rigoyen.
Exactement, ça fait 4.
Et bon, voilà. C'est tout, et c'est normal alors.
Et donc t'es pas sorti Fanny, Yann.
Ah oui, non, c'est
mais t'as perdu quand même.
Mais rade-le l'autre.
Non, tais-toi, tout.
Mais effectivement, t'as perdu quand même.
Bichente, on pourra avoir une bière ensemble, il n'y a pas de souci.
Bichente, vous irez à Jondogé samedi 27 avril prochain pour assister à la rencontre entre l'Aviron et l'Union Bordeaux-Bègles. Ça va être un gros match, on compte sur vous pour donner de la voix, évidemment.
Génial, oui, bien sûr, on y sera.
Bisous, Vicente.
Et à la bientôt, bonne soirée, surtout.
Martine, faudra revenir jouer avec nous, hein, cette semaine.
Ouais.
Choisissez pas, Yann.
Je vais essayer.
Voilà, choisissez bien votre candidat, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire, Martine.
Non, mais Caballero, ça fait 3 mois que t'as pas gagné. Hein.
Non, on est contre.
J'ai fait une journée, c'est tout.
Mais oui, pardon, Martine.
Ça, vous êtes pas tombé au moment.
Je suis un peu fatigué, lui, il a rien fait depuis 2 semaines, il est en vacances, mais je suis un peu fatigué, quoi.
Faudra revenir, Martine. On vous fait des gros bisous.
Oui, merci.
Bisous à Bardos, bye bye.
Bisous.
Le qui peut battre, c'est fini. Mais 100% rugby, non. On revient juste après ça.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% rugby sur France Bleu.
100% rugby, dernière partie avec Yann Blanchard et Benoît Cavaliero ce soir. Dans cette dernière partie, on va essayer de tirer le bilan des clubs français en Coupe d'Europe. Et ça va aller assez vite parce que ce qui s'est passé.
Ils ont fait comme Yann, ils ont perdu.
Les quarts de finale, ça n'a pas été trop ça. À part pour Clermont, peut-être en Challenge Cup, on va peut-être commencer là-dessus. Clermont qui s'est qualifié pour les demi-finales en écrasant Ulster 53-14. Ce qui paraît étonnant d'ailleurs quand on voit un Clermont qui bataille en top 14 pour essayer de faire quelque chose et qui arrive en Challenge Cup. Est-ce que ça montre pas aussi le niveau de cette Challenge Cup en quelque sorte?
Ouais, je pense que c'est surtout ça. Et puis c'est aussi que clairement, et ben c'est le plus court moyen, et c'est le plus facile moyen d'être qualifié en Champions Cup la saison prochaine, c'est en gagnant cette compétition de Challenge, parce que ça m'étonnerait qu'ils se qualifient par le championnat. Donc ils vont mettre toutes leurs forces là-dessus d'ici la fin de la saison, parce que le maintien est quasiment acquis pour eux. Et ils sont pas loin. Et d'ailleurs, la ligue et le diffuseur se sont mis d'accord puisqu'ils devaient jouer le dimanche. Soir, normalement la semaine avant la demi, sauf qu'ils s'en vont en Afrique du Sud, donc c'est cadeau.
Le samedi 4 mai, déplacement en Afrique du Sud.
Donc du coup, ils ont changé, ils joueront samedi pour leur permettre d'avoir une journée de plus de vacances, de repos pour pouvoir partir d'Afrique du Sud derrière. Donc ouais, un objectif pour eux, c'est bien, un objectif affiché pour un club français, la Challenge, parce que c'est pas souvent le cas et les équipes font souvent beaucoup tourner.
Et puis il reste les Sharks en Afrique du Sud, il reste Gloucester, il reste Trévise. Surtout, ça a été la grosse surprise de cette Champions Cup. Trévise, le club italien qui bat la province du Connacht. Pas simple non plus, mais bref, je vois le regard que vous lancez. On va donc du coup passer à la Champions Cup avec les quarts de finale.
Le Connacht.
Langage, s'il te plaît. Les quarts de finale de Champions Cup, bon, ça s'est pas hyper bien passé non plus pour nos clubs français, à part évidemment pour le Stade Toulousain qui a écrasé Exeter 64-26, on va en parler. Mais il y a surtout cette défaite d'un petit point de l'Union Bordeaux-Bègles face au Harlequins, et puis la défaite de La Rochelle, là, beaucoup plus large pour le coup, 40-13 face au Leinster dont on parlait tout à l'heure. Leinster qui affrontera Northampton en demi-finale, le Stade Toulousain qui recevra les Harlequins le dimanche 5 mai prochain. Retour déjà sur ces quarts de finale, sur les matchs de La Rochelle et de l'UBB. Bon, certes, c'est pas passé loin pour l'UBB, pour le coup.
Bah, c'est pas passé loin, mais ils ont commencé très mal. D'ailleurs, j'ai regardé le début et je me suis dit, ouf, ça va mal finir. Et finalement, j'aurais dû regarder parce que ils se sont bien rattrapés. Ouais, et après, apparemment, ça a été beaucoup de jeux, beaucoup de folie de la part de l'UBB, qui est pas passé loin, malheureusement, à une transformation près.
À la dernière seconde, qui plus est.
Oui, ça se joue à rien, mais ça se joue sur cette transformation. Est-ce que ça se joue aussi avant?
Non, le début du match, surtout.
Oui, mais ce que je veux dire,
c'est pas la transformation, c'est
dur. Ouais, c'est triste, c'est dur, mais à la 78e minute, 79e minute, avoir une transformation face aux perches, quasiment, oui, si, ça se joue là aussi. Donc voilà, après, est-ce que Bordeaux, attention, ils ont tendance aussi à prendre beaucoup de points, ils en prennent encore 42 là, enfin voilà, est-ce que tu peux espérer gagner un quart de finale de Coupe d'Europe à domicile quand tu prends 42 points? C'est aussi là les faiblesses de l'UBB pour le moment, d'un club qui est en train de se construire, et bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Bayonne, parce que là aussi, en recevant l'UBB à une semaine de leur demi, on aurait pu espérer qu'ils fassent tourner, mais là ils auront plus de demi-finale juste derrière.
Ouais, pas simple. Et pour La Rochelle, d'ailleurs, le double champion d'Europe en titre, qui se fait écrasé par le Leinster, 40-13. On a l'impression que ce La Rochelle, là, qu'on a connu double champion d'Europe, n'existe plus, en fait.
Non, mais moi, je croyais pas à la tactique de O'Gara. Il a gardé.
Ballon porté.
Non, voilà. Non, pas ça. Il a gardé tous ses mecs pendant 12 jours. Ils sont partis en Afrique du Sud ensemble. D'Afrique du Sud, ils ont été à Cork ensemble. Enfin, voilà, ça reste des hommes. Je dis pas que c'est la mine de faire ça, mais partir pendant 12 jours, pas voir ta femme, pas voir tes gosses, pas voir ton entourage, ben voilà, ça donne un match où il passe totalement à côté.
Je pense que c'est ça qui mine et pas le plan de jeu d'Ogara, justement, non, qui est juste d'envoyer tes gros foncer dans le tas.
Le plan de jeu, on voit le même depuis 3 ans. Ils ont été 2 fois champions d'Europe et 2 fois finalistes du championnat de France. Bon, je veux bien qu'il y ait.
Oui, mais en 3 ans, les autres. Je veux bien qu'ils ont quand même s'adapter.
Dès que ça perd, on se réveille et qu'on se dit que La Rochelle, c'est nul à chier à avoir joué. Mais c'est nul à chier à avoir joué depuis 3 ans. Donc, les gens qui ont bavé sur cette équipe, maintenant, sont en train de me dire que c'est nul à avoir joué. Oui, mais c'était nul à avoir joué. Excusez-moi du parallèle avec l'équipe de France. C'est quand ça perd que tout le monde se réveille et se dit on se fait chier devant cette équipe. Oui, bon. Est-ce que c'est à ça à remettre en cause? Moi, je mets plutôt le fait, l'usure un peu mentale de cette équipe avec O'Gara qui au-delà de ses 12 jours, on sent que cette année, il avait
c'est
eu
depuis
sa
le
petite
début
sortie.
D'année.
Voilà, il avait fait sa petite sortie sur ils sont plus intéressés par l'immobilier à La Rochelle que par le rugby.
Ça, les joueurs avaient apprécié. Hein.
Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il est en train de les ronger. Lui aussi se ronge parce que je pense qu'au tout début d'année, il avait même fait entendre que s'il fallait qu'il démissionne pour un choc, il était prêt à le faire. Ça sent la fin quand même du côté d'O'Gara, du côté de La Rochelle. Il ira jusqu'à la fin de la saison, mais je suis pas sûr qu'il embrayera sur une note derrière.
Et puis un petit mot sur ce Stade Toulousain impressionnant face à Exeter, le Stade Toulousain qui va recevoir les Harlequins justement, tombeur de l'UBB.
Ben jusqu'à la 50e, ça se jouait pas grand-chose et après même Exeter qui était énorme physiquement et tout, et ils étaient au-dessus de Toulouse et tout d'un coup éteint. Donc Toulouse avait ils en ont profité.
Est-ce que c'est pas juste quand Toulouse s'est mis à jouer tout simplement, à jouer au rugby, j'entends.
Hein. Ouais, ou alors Exeter qui était épuisé parce qu'ils ont fait un énorme match physiquement et.
Un mot, toi, Yann, sur ce match de Toulouse?
Non, énormissime. Un match, ça se construit. Donc oui, je veux bien que Exeter ait tenu jusqu'à la 50e. Mais un match, ça dure 80. Et on a vu la différence de classe entre les deux équipes, justement, de la 50e à la 80e. Exeter a fait ce qu'ils ont pu pendant 50 minutes. Mais je pense qu'ils ne pouvaient pas plus parce que c'est un Toulouse stratosphérique quand il y a tout le monde comme ça.
Et ce match face au Harlequins, on va l'attendre de pied ferme également. Ce sera le dimanche 5 mai prochain.
Pas photo, toujours. Je vous le dis, 30 points.
Ah ouais, tu penses?
Pour avoir les Queens face à l'UBB, je peux vous dire que c'est Toulouse et si tôt tu. D'ailleurs, ils sont 6 temps au-dessus de tout le monde. Je vous annonce le doublé de Toulouse cette année, Coupe d'Europe.
Ok, d'accord. On va avoir Ami Bookmaker, pardon, à vos tickets, tout simplement.
Ouais, mais si on veut pas stopper,
Yann,
on t'en fait pas.
Merci, hein. Yann. Les mouchoirs sont là pour
ça y est, c'est fini. Merci, Yann. Merci, Benoît. Merci à vous de nous avoir suivis. 100% rugby, on n'oublie pas. C'est aussi sur FranceBleu.fr, mais surtout, 100% rugby, c'est demain, 18h. Ciao, tout le monde.
Mets le point.